une claire diminution du nombre de cas un peu partout, plus particulièrement au Liberia où vraiment le nombre de cas ces dernières semaines ont fortement diminué, ce qui est un très très bon signe. Sur la Sierra Leone, la courbe a commencé à diminuer un peu plus tardivement à partir de décembre et on remarque déjà dans les endroits où on travaille aussi une diminution, pas autant que celle du Liberia, mais déjà une diminution du nombre de cas. Quant à la Guinée, on est un peu plus incertain parce que certainement cette dernière semaine, il y a une diminution de cas, mais du fait que les épidémies, il y a plusieurs courbes, trois au cours de l'année, on est un peu plus attentif à ce niveau-là.
Est-ce que les populations acceptent mieux les contraintes nécessaires pour limiter la contagion?
En fait, je pense qu'il y a un gros travail dans l'ensemble des pays au niveau de l'acceptation des populations. Et une de nos impressions est que c'est un facteur extrêmement important. Et il y a aussi des variantes dans chaque pays. Donc, comme on voit dans certains pays, il y a eu un énorme effort de la population pour pouvoir se mobiliser, s'isoler, comme ça s'est passé, par exemple, sur certains pays comme le Liberia, où ils se sont isolés volontairement pour protéger les familles. Et on a vu vraiment l'effet très important. D'autres, c'est arrivé un peu plus tardivement parce qu'il y a besoin aussi de plus d'informations. Et dans d'autres pays, ça reste quand même une grosse question encore au sens stigmatisé, mais aussi qu'un pays comme la Guinée, c'est un des points les plus inquiétants au niveau de la Guinée, c'est l'acceptance de la population qui, dans certains endroits, dans d'autres, est très bonne et reste très, très insuffisante, et ce qui explique les courbes récurrentes dans ce pays.
Et du côté des systèmes de santé publique, Liberia, Sierra Leone et Guinée, alors est-ce qu'ils ont pu être suffisamment renforcés à votre avis?
Il faut voir que le système de santé a complètement été aussi traumatisé avec pas mal de décès et pas mal de cas dans le système de santé. Vous savez aussi dans ces pays-là que le nombre de staffs médicaux n'est pas aussi important. Et donc ce qui a conduit vraiment à un collapse du système de santé, il commence à se remettre en place lentement. Et donc ils avaient un gros besoin au niveau de protection, ce qui a été fourni au niveau du supply. Mais il y a aussi toujours le deuxième volet, c'est aussi le changement de comportement, ce qui prend encore du temps. Et à ce niveau-là, on pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire parce que ce qu'on voit au niveau de la protection reste encore dans pas mal d'endroits loin de ce qui serait satisfaisant.
Les frontières restent quand même poreuses en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas garantir vraiment que les malades ne les franchiront pas.
Ce qui se passe, il y a plusieurs facteurs. Il faut voir que l'largeur de frontières est extrêmement importante et aussi voir aussi la perspective parfois des patients. C'est que, surtout au début de l'épidémie, c'est qu'ils vont essayer d'aller dans les endroits où ils espèrent trouver des soins et d'être retraités pour la maladie, ce qui explique aussi certaines choses. Donc à ce niveau-là, ce qui est aussi très important, après la mise en place de pas mal de centres, surtout dans les grandes villes, etc., c'est de regarder de plus près tout ce qui est frontalier et donc essayer d'avoir des stratégies jointes entre les pays de la région, les trois pays de la région, pour améliorer le système de surveillance et l'accès aux soins dans ces zones frontalières pour que les personnes qui passent les frontières puissent pouvoir être tracées et recevoir les soins le plus tôt possible.
Quelles sont finalement les dernières recommandations de Médecins sans frontières aux pays de la région?
Il y a plusieurs aspects en y pensant. C'est que, comme vous savez, l'Ebola n'a pas eu qu'un impact au niveau mortalité sur les cas de ce virus, mais il y a une répercussion énorme, encore plus importante, sur tout le système de santé et aussi l'économie du pays. Donc ces pays sont complètement traumatisés, si je peux dire, au niveau de l'Ebola, mais aussi toutes les conséquences de l'Ebola qui sont encore plus importantes que l'Ebola. Donc si on pouvait faire des recommandations, c'est que de continuer au niveau d'essayer d'avancer pour pouvoir essayer de réduire au maximum le nombre de cas. Et cette deuxième phase est parfois plus difficile, c'est-à-dire aller chercher les patients au plus loin, etc., et s'appuyer sur l'acceptance de la communauté et le système de santé pour pouvoir essayer d'aller au plus loin dans les communautés pour donner accès aux derniers cas. L'autre élément aussi, c'est mettre en place, renforcer les systèmes de surveillance pour pouvoir réagir au plus tôt s'il y a un autre break qui apparaît. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, comme mentionné. Tout ce qui est système transfrontalier est aussi quelque chose d'assez important à développer. Et le troisième élément, c'est de pouvoir aider au redéploiement des systèmes de santé et redonner un peu confiance aux agents de santé de pouvoir retourner dans les structures. Et à ce niveau-là, nous, on pense aussi que l'accès pour les vaccins Ebola, on pense que les staff de santé devraient être une des priorités pour les populations qui puissent avoir accès à ce vaccin, parce que ça permettra de redéployer, réouvrir le système de santé au plus tôt, et potentiellement, s'il y a un autre outbreak, d'avoir plus de possibilités de pouvoir répondre rapidement. Donc à ce niveau-là, on pense que c'est quelque chose d'extrêmement important au niveau des priorités pour le redéploiement des systèmes de santé.